C'est une journée de visite placée sous le signe du patrimoine culturel basque que les premières dames ont partagé aujourd'hui.
RTL.
Ce matin, les conjointes des chefs d'État ont d'abord assisté à une démonstration de pelote basque au fronton d'Espelette.
La curiosité est un vilain défaut.
Les premières dames ont dégusté quelques produits typiquement basques, comme chez ce caviste.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On a parlé un peu de l'espadrille, on a parlé du béret et on a parlé du parapluie aussi.
Bonjour Joël Chevet.
Bonjour.
Bienvenue de vous retrouver. Vous êtes historienne, journaliste, vous avez participé au magazine Historia consacré aux premières dames en partenariat avec RTL. À vos côtés, Elisabeth Capniste. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes réalisatrice de documentaires. Et en fait, toutes les deux, vous avez travaillé aussi à un film qui va être diffusé dimanche prochain, dimanche soir, sur France 5, consacré à ces premières dames de la 5e. On est en pleine actualité, Joël Chevet. On a appris il y a quelques heures, je crois, que Brigitte Macron allait communiquer, ce qui est assez rare. C'est plutôt une première dame silencieuse.
Oui, alors elle va communiquer à propos du lancement des pièces jaunes, ouais, pour la fondation des hôpitaux de Paris et hôpitaux de France. Il ne faut pas oublier que cette fondation, c'est une fondation privée. C'est-à-dire qu'elle reprend le flambeau derrière Bernadette Chirac, il est vrai. Mais en tant que première dame, ça n'est pas un attribut obligatoire d'une première dame que de s'occuper des pièces jaunes. Reste qu'elle le fait, et qu'elle le fait mercredi, en effet.
Sur TF1, il y aurait une interview TF1, face à Jean-Pierre Pernod.
On n'entend pas souvent sa voix, vous trouvez, Joël Chevet, à Brigitte Macron, par exemple, pour votre film Elisabeth Capniss. Est-ce que vous avez réussi à lui parler?
Alors non, je n'ai pas réussi à lui parler, mais on a fait toutes les démarches nécessaires pour la rencontrer. Nous sommes allés à l'Élysée, nous avons rencontré les deux chefs de cabinet, mais non, ça ne s'est pas fait.
Prudence excessive ?
Oui, c'était prudence excessive, et je pense aussi que c'était un moment où commençait l'histoire des gilets jaunes, donc il y avait comme ça un peu un désir de silence de la part, on lui a demandé quand même de se taire. Donc finalement, je me suis dit, tant pis, elle fait le job de première dame. Mmh. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de raconter de toute façon les premières dames depuis Yvonne de Gaulle.
Oui, et on va revenir sur certaines de ces histoires. Il y en a qui sont particulièrement passionnantes. Peut-être un tableau un peu général, Joël Chevet. Est-ce que vous diriez que leur espace d'expression, peut-être même on peut dire leur espace politique, s'est réduit à ces premières dames?
Alors, c'est complexe parce qu'en fait, sur l'ensemble de la Ve République, aucune n'a joué le même rôle, même si, traditionnellement et protocolairement, je dirais, elles ont les mêmes charges de représentation. Hein. Ce n'est pas défini par la République, ce n'est pas constitutionnel, mais bon, la République est bonne fille et laisse une place à la deuxième dame, je dirais, par courtoisie républicaine. Et donc, chacune a essayé de définir son rôle en fonction de l'époque, en fonction de sa personnalité aussi, en fonction de ses relations avec son mari, parce que tout est lié là. Mais il se trouve, je crois que maintenant, on est dans une période, en effet, de rétrécissement. Pas tant de sa présence médiatique, on la voit beaucoup, mais par contre, sa parole est très retenue. On parlait de sa présence dans ce film, moi je lui ai demandé personnellement si elle souhaitait y participer, je me suis même demandé si elle était au courant de ce film,
et
si le cabinet n'avait pas retenu l'information, parce qu'elle ne m'a pas répondu du tout sur le sujet.
Il y avait des premières dames un peu moins sages, Elisabeth Capniss, je pense par exemple à Daniel Mitterrand, qui prenait des positions politiques qui pouvaient gêner son mari. C'était une femme engagée, ou alors elle avait une certaine liberté pour des raisons personnelles que pouvait lui laisser François Mitterrand?
Non, je pense que c'est une femme engagée dès le départ, c'est-à-dire même pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle est résistante, donc c'est un engagement profond. Et je pense qu'effectivement, elle a affirmé ses convictions et ses combats.
Mais ça pouvait gêner la diplomatie française. Moi, je me souviens de prise de position de Daniel Mitterrand, notamment sur le Kurdistan, enfin sur beaucoup de thèmes où c'était au Quai d'Orsay, il s'arrachait un peu les cheveux quand même.
Il s'arrachait les cheveux. Il paraît qu'on l'appelait l'emmerdeuse. Bon, mais
c'est un compliment.
Oui, dans un sens, ça peut être un compliment. Oui, elle était un peu la conscience de gauche de son mari.
Tout à fait.
Et aussi, je veux dire, elle s'autorisait à rencontrer le commandant sous Marcos au Mexique. Mexique, à embrasser sur les marches du palais Fidel Castro, à recevoir Nelson Mandela avant même son président de mari. Donc, je veux dire, elle a toujours affirmé ses convictions et défendu ses combats, et jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une posture, c'était vraiment quelque chose qui comptait pour elle, qui était la saveur de sa vie, quoi.
Joëlle Chevet, Danielle Mitterrand, c'est aussi la femme trompée. Est-ce qu'elle savait et connaissait la double vie de son mari assez tôt ?
Elle l'a su très ouais. tôt. Elle lui a fait des scènes épouvantables jusqu'à le gifler dans la rue quand elle a appris qu'il avait une liaison avec Danielle Delorme, l'actrice. Reste que, pour revenir à ce que disait Elisabeth par rapport à ses engagements, il est évident qu'il y a aussi un contrat privé dans ce couple qui fait qu'elle est au courant de ce qui se passe. Ouais. Elle aurait voulu divorcer. Lui, en tant qu'homme politique, à une époque où le divorce interdisait toute carrière politique, s'en est toujours défendu. Donc, il y a un deal entre eux.
Donc, c'est pour ça qu'aussi, François Mitterrand la laisse s'engager.
Au-delà de ses réelles convictions politiques et du fait que... Mais il est certain que la liberté qu'elle s'est accordée, elle se l'est accordée aussi parce qu'elle détenait des secrets que Mitterrand ne voulait pas voir révélé.
Est-ce qu'elle avait un amant, elle aussi ? Est-ce qu'on a su ça ?
Oui, elle en a eu beaucoup.
C'est vrai.
Mais elle en a eu un en particulier, Jean Balanci, qu'elle a carrément installé rue de Bièvre, à Latché. Et quand leur entourage s'émouvait de la chose, Mitterrand répondait « On ne peut pas demander plus à une femme qu'on ne peut lui donner ».
Très bien, c'est clair. Elisabeth Capnis, est-ce que dans votre film, on découvre aussi d'autres premières dames et des premières dames plus effacées que Danielle Mitterrand, mais qui ont quand même compté dans la vie politique ? Je pense à Yvonne de Gaulle. Sur un dossier notamment, elle a beaucoup pesé. Lequel ?
Oui, elle a beaucoup pesé. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce film sur elle, justement, Yvonne de Gaulle. Et bien, cette femme, elle a accepté. C'est-à-dire qu'il y a un député, Lucien Neuwirth, qui est venu la voir pour lui demander de soutenir un projet de loi, la pilule contraceptive. On est en 1967. Donc, elle le soutienne auprès de son mari. Et à leur grand étonnement, Yvonne de Gaulle va accepter et les soutenir dans cette démarche. Et je pense que, enfin, elle en parle très bien, Frédéric Naud-Dufour, la biographe qui intervient dans mon film, c'est que c'est une femme qui a des convictions de femme catholique, mais qui, en même temps, a vu des femmes malheureuses souffrir d'avoir trop d'enfants. Et elle sait ce que c'est que d'avoir un enfant quand on ne l'a pas choisi. Et donc, c'est là où elle va aller au-delà de ses convictions de femme catholique pour défendre ce projet de loi. Et ça, je trouve que c'est bien de le rappeler.
Oui, et on n'imaginait pas forcément qu'elle ait pu avoir cette influence politique. Joëlle Chevet, ce mot de première dame, il vient d'où ?
Alors, le mot de première dame, bon, il remonte, oui, en effet, il a été appliqué pour la première fois en 1936 à Marguerite Lebrun, qui faisait un voyage inaugural du Normandie aux États-Unis. Donc, les Américains ont été très contents de découvrir cette femme si différente d'Eleanor Roosevelt, qui tenait beaucoup de place sur le plan politique. Et ils l'ont appelée première dame, en traduisant évidemment le First Lady dans le texte, mais ils l'ont appelée première dame en français. Reste que le terme n'a vraiment été utilisé pour nos premières dames. Moi, je l'utilise de façon générique parce que c'est pratique. C'est pas avant le deuxième mandat de Jacques Chirac. Hein. Jusque-là, on utilisait le titre du mari. Ou alors, on disait Madame de Gaulle, tout simplement.
Vous m'appellerez toujours Madame la Présidente. Hein,
voilà,
je vais
dire aussi
si,
Madame.
Ça, si je peux
sous
vous faire plaisir,
République.
Bah,
vous ça
pouvez,
vous va très
ça
bien,
vous
Madame la Présidente.
RTL.
Première dame, votre nouvelle série star. Sabina n'a qu'un seul rêve, devenir la première dame du Chili et détenir le pouvoir et l'argent. Pour parvenir à ses fins, elle jette son dévolu sur Leonardo, un homme politique brillant, candidat aux élections présidentielles.
Attendez, attendez. Moi, je crois au destin. Et vous allez gagner les élections, je le sais.
La curiosité est un vilain défaut.
Une sitcom à découvrir, pourquoi pas, Primera Dama sur IDTF1, une sitcom chilienne sur les premières dames. Et nous, on a... C'est vrai que la vie politique ressemble un peu à une sitcom, hein, d'ailleurs.
Ah, ça peut arriver, oui.
Ça peut arriver sûr. Tout au long de la 5e République. On a vu quelques premières dames, elles ont des destins passionnants et on raconte leur histoire avec l'historienne Joëlle Chevet, que l'on peut lire dans le magazine Historia, en partenariat avec RTL, et la réalisatrice de documentaire Elisabeth Capnis, dont le film sera diffusé dimanche soir, ce sera sur France. France 5. Et on va raconter maintenant une autre première dame, c'est Claude Pompidou, et un scandale. On va commencer par un scandale qui la frappe, c'est l'affaire Markovitch. C'est un scandale qui éclate à l'automne 1968. Georges Pompidou n'est plus Premier ministre et pas encore président. Joël Chevet, vous nous rappelez de quoi la rumeur accuse Claude Pompidou ?
Alors, il se trouve qu'on a retrouvé dans une décharge des Yvelines le cadavre de Stéphane Markovitch. Stéphane Markovitch, qui était un ancien garde du corps d'Alain Delon et qui organisait pour lui de nombreuses soirées, plus ou moins légères. Et il semble que le personnage se soit livré à un certain nombre de chantages sur les personnalités qui participaient à ces soirées. Si bien que une histoire a circulé qu'une femme de ministre, d'ancien ministre, avait été impliquée et des photos ont paru dans la presse. Sur le moment, les Pompidou ne se sont pas du tout sentis visés, jusqu'à temps qu'on leur dise qu'en effet, il s'agissait de Claude. Et il y a eu toute une série de considérations plus ou moins drôles, parce qu'on l'a comparé avec Madame Claude, la fameuse tenancière de Maison Close.
Mais c'était des photos montage où elle apparaissait.
Voilà, élevée comme elle aux Ursulines. Donc ça faisait rire tout le monde, sauf les Pompidou, bien sûr, qui ont pu démontrer dès les débuts de l'enquête qu'il s'agissait de photos montage.
Donc c'est une manipulation avec
quel
objectif ?
C'est une manipulation qui, évidemment, était destinée à déstabiliser Pompidou, qui était le candidat présumé pour succéder au général de Gaulle aux prochaines élections. C'était évidemment les élections de 1975. Reste que l'affaire a été tout à fait élucidée. Les Pompidou en sont restés extrêmement mortifiés, tout simplement parce que très peu de gens ont pris leur défense, et en particulier le général de Gaulle, qui était persuadé de l'innocence de Claude. Mais dans la mesure où elle avait une vie très mondaine, des mœurs, elle s'affichait en maillot de bain et elle fumait, elle conduisait une Porsche, et comme il n'y a pas de fumée sans feu pour de Gaulle, elle avait des fréquentations qui pouvaient la rendre évidemment fragile dans ce domaine. On pense aussi qu'un certain nombre d'hommes politiques comme Couve de Murville, qui était le candidat rival de Pompidou, a joué un rôle dans cette affaire. Et toute sa vie, Pompidou a porté sur lui un carnet avec le nom des gens qu'il estimait n'avoir pas pris sa défense. Et tous deux ont vécu après avec une haine des journalistes vraiment très profonde.
Quel rôle elle avait, Claude Pompidou, aux côtés de son mari, de Georges Pompidou ? Quel rôle il lui laissait avoir ou quel rôle elle prenait comme en tant que première dame ?
Alors, je dirais qu'elle n'avait aucun rôle et qu'elle ne souhaitait en prendre aucun. Reste que c'était un couple extrêmement fusionnel, avec, vous le savez, toute un côté intellectuel, artistique, littéraire, et cet engagement dans l'art contemporain qui les unissait profondément, à une époque où on considérait encore que la première dame était un peu la ménagère en chef de l'Élysée et qu'elle pouvait quand même y faire un petit peu ce qu'elle voulait, d'où les aménagements qu'elle a pu faire. Et évidemment,
dans
ce
la
rôle
décoration
qu'elle a joué,
notamment de l'Élysée,
bien sûr,
c'est ça,
elle a entièrement transformé l'Élysée. C'est la seule, peut-être avec Michel Auriol, qui a fait autant de transformations dans l'Élysée.
Ce qui aujourd'hui ne passerait pas, parce que ça coûtait beaucoup d'argent, forcément, ces transformations.
Vous êtes bien placé pour le savoir, chaque fois que Madame Macron touche à quelque chose, immédiatement, on lui reproche des dépenses qui, souvent, ne sont d'ailleurs pas des dépenses de son fait, mais qui sont nécessitées par l'entretien de l'Élysée. Et son aménagement.
Oui. Elisabeth Capniste, est-ce que vous diriez qu'après Yvonne de Gaulle, Claude Pompidou à l'Élysée, c'est un choc pour les Français ?
Ah oui, c'est un choc. Oui, oui. Elle apporte un vent de modernité dans sa manière de s'habiller. Elle va chez Courrèges, Cardin. Ils reçoivent donc effectivement des artistes. Ils sont très ouverts sur l'art. Et moi, ce que je voudrais juste revenir sur cette histoire justement de l'affaire Markovitch. Comment cette femme est arrivée à l'Élysée blessée, mais humiliée, outragée véritablement, d'autant plus que à ce moment-là, il y a encore des tracts avec des photomontages qui circulent dans Paris, c'est-à-dire que ça lui colle. Et j'ai trouvé une archive et elle est vraiment, je trouve, intéressante parce que c'est Jacques Chancel qui lui demande « Est-ce que le monde politique aurait pu vous détruire, vous briser ?» Et elle répond « Oui ». Mais heureusement, j'avais une telle affection pour mon mari que j'ai pu dépasser. Mais c'est là où on voit son visage. L'interview date de 10 ans, 15 ans après la mort de son mari. Et on voit à quel point elle est émue, que l'émotion est à fleur de peau, en se rappelant ce moment-là qu'elle a passé. Encore, on ne s'est pas rendu compte à quel point cette femme avait été vraiment... humilié de toute cette histoire.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quand je suis interpellée sur des sujets, j'en discute avec mon mari et on voit comment faire au mieux.
Sur RTL.
Souvent, je m'associe aux ministres concernés.
La curiosité est un vilain défaut.
Et je dois dire que c'est beaucoup plus facile que je ne croyais.
Les premières dames au premier plan, c'est le titre de l'article du magazine Historia en partenariat avec RTL. Article écrit par l'historienne Joëlle Chevet et à vos côtés, toujours avec nous, la réalisatrice de documentaire Elisabeth Capniste. Alors, il a fallu choisir hein, parce qu'il y a toutes les premières dames de la Ve République dans votre documentaire Elisabeth Capniste. Mais on va maintenant découvrir comment Valérie Trierweiler a tenté, je dis bien tenté, de se faire une place. Et c'était quasiment une mission impossible. Ça commence le soir de la victoire de François Hollande. Il est en Corrèze, il est dans sa ville de Tulle, si je ne me trompe. Rappelez-nous ce qui se passe.
C'est-à-dire, elle le dit très bien. Elle dit le soir même donc, de la victoire, j'ai su que je n'allais plus avoir de vie privée, que nous n'aurions plus de vie privée.
Privée de lui et privée de vie
oui,
privée.
Voilà,
voilà ce qu'elle dit.
Tout, oui, oui. Et puis surtout, oui, qu'elle le perdait en quelque sorte.
Et ça se symbolise autour du baiser.
Voilà, du baiser. Alors, le baiser, je crois que c'est à la Bastille.
Oui. Ah, c'est à la Bastille, c'est vrai.
Et donc, effectivement, elle veut qu'il lui marque une certaine reconnaissance. Elle est sa compagne. Et donc elle lui dit embrasse-moi, mais elle le dit pour lui. Et tout le monde va réussir à détecter ce qu'elle lui dit au creux de l'oreille. Et d'ailleurs on voit bien sur l'archive, parce que je l'ai mis au ralenti, il l'embrasse, mais il l'effleure. On sent qu'il ne veut pas du tout l'embrasser.
Il ne va pas à pleine bouche. Hein.
Non, il n'y va pas à pleine bouche. Et puis je pense que c'est un homme aussi plutôt discret, qui n'aime pas tellement se montrer comme ça, surtout dans un rapport intime.
Sauf casqué,
dit Joëlle Chevet. Mais Joëlle Chevet, est-ce que le concept de vie privée, merci pour cette bonne blague, est-ce que le concept de vie privée, ça a un sens pour un couple présidentiel?
Non, je voudrais juste revenir une seconde sur ce que disait Elisabeth à propos de Valérie Trierweiler, de ce fameux baiser. Oui. Elle lui dit « embrasse-moi sur la bouche ». C'est là où est le vrai problème. Mmh. Et pourquoi elle lui dit ça? Parce qu'ils ne sont pas mariés. Oui. Sa seule légitimité à cette femme est une légitimité sexuelle. Et c'est la seule qu'elle peut faire valoir. Mmh. Elle n'a pas le contrat de mariage.
Oui, mais il l'installe quand même à l'Élysée. Il l'installe quand même à l'Élysée.
Et il l'installe à l'Élysée. Oui. Et quand le chef du protocole demande le jour de l'investiture comment dois-je traiter Madame Valérie Trierweiler, il a répondu au chef du protocole considérez-la comme mon épouse. Oui. Et les Français ne l'ont jamais considérée comme son épouse. À juste titre d'ailleurs. Si un président de la République change de maîtresse tous les 15 jours, comment on fait? Ça devient très compliqué, et au niveau du protocole, et au niveau financier, etc. Ouais. Donc, je considère que le grand responsable de cette affaire, quelles que soient les gaffes qu'ait pu commettre Valérie Trierweiler, et elle en a commis des bourdes, en pensant que le temps était arrivé d'un autre type de première dame, le responsable, c'est François Hollande, qui n'a pas imaginé une seconde que ça... Lui, le président du mariage pour tous, n'a pas imaginé une seconde que cette absence de légitimité matrimoniale ferait le désespoir de Valérie.
Et puis c'est la faute à l'Élysée aussi. Il n'y a pas de vie privée dans ce palais finalement.
Alors la faute à l'Élysée, je pense que dans toutes les maisons présidentielles ou autres, en effet la vie privée est plus réduite. Enfin, on n'est pas dans leur chambre, ils ont une vie privée beaucoup plus difficile à préserver, évidemment, que quand on est un personnage normal. Le président de la République est président, en effet, 24 heures sur 24, mais il est évident qu'il a des moments d'intimité avec son épouse. Et c'est bien d'ailleurs ce dont se plaignent les conseillers du président.
Et elle avait un modèle, si je me souviens bien, Valérie Trierweiler, un modèle
Daniel
américain.
Mitterrand.
Ah, Daniel Mitterrand.
C'est son modèle.
Et surtout Eleanor Roosevelt.
Oui, mais
qu'Eleanor Roosevelt était journaliste.
Ah, c'est pour ça. Et que Valérie Trierweiler est journaliste.
À être journaliste aux côtés du président. Elle a fait seulement une grosse erreur, c'est que si Eleanor Roosevelt tenait le rôle qu'elle tenait, c'est parce que c'était un président en fauteuil roulant. Donc elle était, ses yeux, ses oreilles et elle l'assistait en fait dans sa charge de président, ce qui est quand même très très différent du rôle que pouvait jouer Valérie Trierweiler auprès de François Hollande. Et il y a une erreur là de sa part.
Et puis, donc, vous l'avez évoqué, Joël, Elisabeth Capnist, il y a des gaffes quand même. Il y a l'histoire du tweet, il faut revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe? On est au tout début du mandat, hein, quand même.
Oui, pas au tout début, début.
Si, c'est au moment des législatives, donc c'est quelques semaines après l'élection.
Bah oui, ce fameux tweet qu'elle envoie donc, à Olivier Farlani pour le défendre.
Forlani, on y arrive à trois.
Pardon, on va y arriver, Forlani, pour le soutenir au moment de sa candidature à La Rochelle. Et elle dit, bon, elle fait ce tweet qui est comme une sorte de déflagration hein, dans le monde à la fois médiatique et politique.
Parce qu'il faut rappeler que face à M. Forlani, il y a
Ségolène Royal.
Il y a la candidature de Ségolène Royal.
Et qu'il s'était engagé, c'est ça qu'elle raconte dans mon film, à ne soutenir aucun candidat. Donc, elle répond à ce mensonge par ce tweet. Et elle va s'en mordre les pouces et tous les doigts d'avoir fait ça, parce que ça va être le début de la chute.
Et puis après, il y a son livre, le livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment. C'est une vengeance, Joël Chevet?
Ou une thérapie, d'ailleurs.
Ou une thérapie, d'ailleurs.
Je pense que c'est les deux. De toute façon, c'est les deux. Alors, une vengeance... Quand on lit ce qu'elle raconte avec la distance quand même de quelques années. Moi, je l'ai lu quand il est sorti, puis je l'ai relu plusieurs années après. On ne l'appréhende pas du tout de la même façon. En fait,
on voit qu'elle a souffert.
Elle analyse quand même la situation d'un couple où elle se trouvait en infériorité permanente, considérée sans arrêt par le parti comme celle qui avait pris la place de Ségolène Royal. L'histoire du baiser, c'est quand même ça aussi. C'est Ségolène Royal qui monte aussi à la tribune et tout le public, évidemment, qui sacre ce couple qui était quand même un couple exceptionnel en politique. Et donc, il a fallu qu'elle porte ça, Valérie Trierweiler. Donc, elle règle ses comptes de cette façon-là. Il y a aussi des comptes qui tiennent au milieu social auquel elle appartient et dont elle a, je pense, passablement souffert. Donc il y a une vengeance, alors on en pense ce qu'on en veut.
Ou une explication,
à chacun,
en tout cas.
De se déterminer, elle donne ses raisons. Et puis il y a une thérapie, en effet, qui, ma foi, apparemment, a bien marché.
En tout cas, en phénomène d'édition, ça c'est sûr. Et c'était bien Olivier Falorni, hein, pour redonner un peu de précision, le candidat à l'époque à La Rochelle. Dernière question, peut-être si on a le temps, parce qu'on est dans un nouveau planning, il faut qu'on rende l'antenne à 14h30 hein, à l'ami Flavie Flamand. Donc c'est vraiment une mini question, est-ce qu'on a le temps de la poser? Vous avez, Elisabeth Capnist, pu interviewer, enfin c'est pas vous d'ailleurs, c'est un autre journaliste, Madame Giscard d'Estaing, ce qui est quand même une parole rare, en quelques mots.
Oui, c'est une parole rare, elle a accepté parce que c'était Patrice Duhamel. Qu'elle connaissait très bien, en qui elle avait confiance. Ouais. Et donc, nous sommes allés effectivement l'interviewer dans son château à Destin. Et c'était formidable de la rencontrer. Et finalement, même avec sa timidité, elle nous dit des choses sur ce qu'elle a pu vivre pendant ces 7 années.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.